certainement d'une façon spirituelle, mais d'une façon terrestre qui sera établie sur la terre pendant 1000 ans. C'est ce que je crois, c'est ce qu'on croit, je pense, dans notre constitution aussi, dans notre assemblée, et qu'on est de position pré-mille. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière et ensuite de ça, on va regarder une question que j'ai reçue au cours des deux dernières semaines, puis qui allait justement avec ce qu'on avait vu. Fait que je vais prier. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es notre Dieu. C'est toi, Seigneur, qu'on veut regarder ce soir. On veut ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées à ta parole, à ta personne. Et Seigneur, on veut comprendre ce que tu nous as laissé pour le temps qui s'en vient. Certainement, Seigneur, que ça renforcit notre espoir, que ça nous porte à lever les yeux vers toi, à se souvenir de toi malgré les épreuves, les tribulations qu'on peut avoir sur la terre. On le sait que la fin n'est pas ici-bas, mais certainement qu'il y a un paradis. Certainement qu'il y a une suite, Seigneur, à tout cela, une suite après la mort, une suite après le temps que tu as fixé pour la terre, Seigneur. Et on a hâte d'y participer, on a hâte de le voir. Et bénis-nous par ta parole ce soir. Dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie. Amen. On avait vu la dernière fois le royaume de l'Antichrist. On avait vu différentes choses sans revenir sur tous les détails. On avait vu quelques détails concernant la trinité satanique qu'on a appelée avec la bête de la mer, la bête de la terre, des caractéristiques du faux règne, que ce soit des séductions par des actes miraculeux, l'instauration d'un règne donnant l'impression d'apporter la paix, la sécurité, mais ça va être beaucoup de tribulations, un monopole économique, persécution envers les saints. On a vu la personnalité aussi de l'Antéchrist, un adversaire acharné de Dieu, un orgueilleux au point de se proclamer lui-même Dieu, l'inique par excellence, littéralement l'homme sans loi, doué de puissance aussi donnée par Satan. Et la manifestation de l'Antéchrist aussi, Satan lui donne cette puissance-là. La première bête prendra le pouvoir, la seconde l'exerce, et la seconde appelée aussi le faux prophète soutiendra la première par ses miracles. On n'a pas vu tous les détails de ça. Il y a beaucoup de choses. On pourrait passer des semaines à regarder tous les textes sur l'eschatologie. Et ce n'est pas nécessairement le but. Mais il y a une durée à ça. Dieu donne un temps. Dieu contrôle le temps. Et comme on se souvient qu'on parlait des signes de son retour, ben le temps a été fixé par Dieu. On ne connaît pas le jour ni l'heure, mais Dieu fixe un temps. Il est déjà fixé et c'est lui qui va exercer l'horaire du calendrier. C'est lui qui va déterminer quand les choses vont se passer. Et certainement que Satan aimerait avoir un calendrier différent de celui de Dieu. Parce que si c'était probablement rien que de Satan, dans son calendrier, il aurait sûrement essayé de prendre le contrôle, et sûrement qu'il l'a déjà fait, qu'il a essayé de faire, de prendre le contrôle bien avant les tribulations qui s'en viennent, et probablement bien plus longtemps que juste cette période de 7 ans qui nous est donnée, et particulièrement 3 ans et demi. Et ça nous amène à la question qui m'a été posée, et peut-être juste avant, on avait vu aussi Apocalypse 13, on avait donné des bribes là, sur ce chiffre-là de 666 qui avait été apporté dans Apocalypse 13, versets 17 et 18, qui pour moi... En tout cas, dans mon interprétation, peut-être la plus simple que je peux trouver, sans vouloir tirer tout ça par les cheveux puis ou fendre le cheveu en quatre, là, on parlait de trinité satanique. Dieu n'a, le chiffre 666 dit c'est un chiffre d'homme, un chiffre qu'on pourrait dire incomplet, un chiffre de créature, un chiffre de c'est ça, attribué à l'homme, comparativement au chiffre 7, qui revient aussi dans l'Apocalypse et qui est synonyme de complet, qui est synonyme de plénitude, qui est synonyme de divinité, qui est attribué particulièrement à Dieu. Et la bête, Satan, les deux bêtes et Satan, certainement qu'ils vont essayer de se donner un semblant d'être Dieu, mais n'arriveront jamais à la perfection que Dieu est, qui est le 777. Ils vont toujours rester à 6. Si on se donne l'image du chiffre humain qui ne sera jamais complet, comparativement à Dieu, qui sera toujours le chiffre symbolisant la plénitude. Et là, j'ai reçu une question qui allait justement avec le thème qu'on avait vu. On avait vu dans 2 Thessaloniciens 2:6. On peut-être y tourner. En passant, je trouve la parenthèse. Si vous avez des questions ou des choses que vous jugez pertinentes, intéressantes à discuter, particulièrement dans vos lectures quotidiennes, vous lisez par exemple, vous avez quel que soit le modèle de lecture que vous avez quotidienne, vous avez un petit papier, vous notez le texte, vous dites « Ah, c'est intéressant ça, ça serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications. » Ça ne veut pas dire que j'ai les réponses à tout, là, mais on peut, évidemment, je vais prendre le temps de rechercher, puis on peut apporter des éléments de réponse, du moins. Fait que la boîte à questions est toujours là, elle est disponible, elle est présentement pas très populaire, mais elle est vraiment à votre disposition. Et puis, mon désir aussi, un peu plus loin, si je pense un peu plus loin, j'aimerais apporter aussi dimanche soir des nouveaux croyants, des jeunes croyants qu'on peut prendre le temps de discuter ensemble, de lever la main, de dire « mais je comprends pas ça ». Et le dimanche soir, c'est vraiment un temps propice pour ça, les mercredis soirs aussi. Mais le dimanche soir, c'est un bon temps pour poser nos questions puis discuter autour de la parole. Fait que si vous avez des gens même que vous suivez, encouragez-les à noter les questions puis le texte puis à la mettre dans la boîte. Puis après, c'est pour en venir. Et la question qui nous a été donnée dans 2 Thessaloniciens 2, je vais lire les versets 6 à 8. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Qui est celui qui le retient? Ce qui le retient, verset 6, vous savez ce qui le retient? Hein, vous le savez? C'est quoi? C'est ça la question. Je vous pose la question avant qu'on essaie d'y répondre. L'Esprit. Pourquoi tu dis l'Esprit? OK. Puis une fois l'Église partie, l'Esprit n'est plus là? Il est disparu? OK. Qui retient le mal. OK. D'autres commentaires? Okay. J'ai entendu d'autres personnes qui abondaient dans le même sens en ce qui concerne l'esprit. J'aimerais vous m'expliquer pourquoi vous arrivez à cette conclusion-là. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui le retient? Oui, Richard. Oui. Oui, il va avoir le champ libre. Oui. OK. Certainement que on est le sel et la lumière sur la terre une fois que l'Église va être enlevée. Est-ce que ce qui retient l'impie, c'est l'Église ou c'est l'Esprit qui habite dans l'Église? Si l'Église est enlevée au début des tribulations, est-ce que l'Esprit est enlevé aussi? Et si on dit que oui, c'est l'Esprit qui est enlevé, mais il faut expliquer aussi. Faut donner une interprétation aussi. Verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ceux qui vont se convertir après l'enlèvement, pendant les tribulations, est-ce qu'il va y en avoir? Oui. Quelle sera l'œuvre de l'esprit sur ces gens-là? OK. Et quoi d'autre aussi? Quelle est l'œuvre de l'esprit à une personne qui dit: moi, je crois en Jésus. Je donne ma vie en Jésus. Je crois qu'il est le Messie, celui qui devait venir, celui qui est venu, mort et ressuscité. Que fera l'Esprit en lui? Et il va le régénérer. Certainement que l'œuvre de l'Esprit de régénération était là, sera là. Est-ce que l'Église sera là? Bien, l'Église a été enlevée. Maintenant, Oui, René, tu veux donner une question ou un commentaire? C'est un peu neutre, oui. C'est celui qui... Oui. 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 De son Église. Et si c'est l'Esprit, C'est ça. Évidemment, il y a l'Évangile qui sera continué d'être prêché. Il y a l'Église qui sera enlevée. À quel moment, et là, on peut se poser encore plein de questions, et sans nécessairement étirer trop la question non plus, mais qu'est-ce qui va se passer après que celui qui le retient soit enlevé? Ben là, l'impie va arriver, et là, le mal va vraiment être présent sur la terre. Est-ce que ça, c'est le début de la grande tribulation, la dernière partie de 3 ans et demi qui reste? Et si oui, il y aura un apogée de mal, là, c'est à partir du milieu de la semaine, de la dernière semaine. Et si c'est l'Esprit qui est son œuvre de neutralisation sur le mal, alors effectivement, l'ennemi, l'impie, va vraiment avoir le champ libre pour vraiment révéler son vrai visage. Et probablement que 3 ans et demi avant, ce que je crois, où est-ce que l'Église sera enlevée, comme tu dis, René, il y aura certainement une grande influence que l'Église exerce qui ne sera plus là. Cette lumière, ce sel-là, ne sera plus là. Et encore plus, si on, comme tu dis, René, c'est pas évident de toujours trancher au couteau aussi, là, particulièrement dans l'eschatologie, d'être aussi hyper dispensationaliste et puis de trancher au couteau. Mais de l'autre côté, si l'œuvre de neutralité, ce qui pourrait être d'être enlevé, parce qu'évidemment, l'Esprit est omniprésent. L'Esprit va continuer d'œuvrer. L'Esprit est celui qui... j'ai juste noté quelques textes. « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu ne perd pas le contrôle. Je commençais en disant ça tantôt, que c'est le temps de qui va commencer. « En son temps », ça dit verset 6, « afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Qui est-ce qu'il y a? Qui est-ce qui a la puissance plus forte que celle de Satan? Certainement que c'est Dieu. Certainement que c'est Dieu qui, lui, peut déterminer le temps. Et Dieu, bien évidemment, va manifester sa puissance à travers son Église, à travers l'Évangile. L'Évangile est une puissance aussi. Mais particulièrement, je pense que l'Esprit en est particulièrement impliqué. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a fait quoi? Et envoyer son Fils. Alors, c'est l'idée que je suis allé chercher, c'est l'idée du temps que Dieu établit, du temps que Dieu décide, et c'est en son temps, Dieu va faire son œuvre comme il le veut. Alors, l'Esprit, certainement, en même temps, ce qui le retient, celui qui le retient, comme tu dis, il y a l'idée de quelque chose de neutre, quelque chose qui semble pas être une personne, qui semble être quelque chose, et plus particulièrement, on dit celui qui le retient est encore disparu, ou selon peut-être une interprétation, c'est le Saint-Esprit, qui laisse cesser son œuvre de neutralité sur la mer. Mais corrige-moi aussi, René, si je me trompe avec le grec, mais l'Esprit est au neutre. mon emploi là, un article défini, parler d'une personne avec un autre qui est l'Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, on peut parler de lui comme en employant des termes neutres puis des termes spécifiques aussi à une personne? Tu comprends-tu ma question? Saint-Esprit, c'est neutre. Il est neutre. Parlant du Saint-Esprit, c'est ça. C'est ça. Il est neutre, mais on va dire le Esprit, mais le Saint-Esprit, avec un article défini en disant que c'est une personne. OK. Oui, Serge? Ouais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et si... Oui. À deux témoins. Oui. Oui. Le texte dit, verset 7, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mensonge, le mal, l'hypocrisie, la débauche, les fausses religions sont déjà dans le monde à ce temps-là où ce que Paul pouvait parler. Et j'imagine que si plus le temps avance, plus le péché prolifère et puis le mal sera grandissant. Et les jugements de Dieu aussi seront grandissants. Et comme on dit, évidemment, quand l'Église sera enlevée, le mal va avoir encore une emprise supplémentaire sur le monde. Et si on implique l'Esprit, ce que je croirais que certainement qu'il y ait l'Esprit pour être celui qui le retient, plus particulièrement, et dans cette dernière partie de semaine-là, si l'œuvre de neutralité de l'Esprit et cesser, bien que l'œuvre absolue de l'Esprit n'est pas arrêtée, mais de neutralité sur le mal est arrêtée, là, le péché va abonder. Et puis, si on lisait Apocalypse 9, vous souvenez-vous de la cinquième trompette des démons qui sont lâchés, qui sont laissés. Alors, imaginez là, le mal là, qui va grandir, les démons qui sont laissés, les hommes vont réclamer la mort, vont vouloir mourir, puis ils la trouveront pas. Alors, le mal va être très grandissant. Est-ce que j'ai répondu à la question? La personne qui a posé la question, je ne sais pas, mais j'ai donné le plus possible d'éléments que je peux donner au grenier. C'est ça. Oui. Oui. C'est ça. Oui. Oui. Michael. C'est ça. L'Empire romain. Oui. C'est ça. C'est ça. Oui. Oui. C'est ça. Et ces éléments-là que tu as nommés, là, que ce soit l'Empire romain ou bien chez les notés quelque part, là, mais le gouvernement humain, ces choses-là ne prendront plus leur sens. Mais l'Empire romain prend déjà plus son sens. Là. Puis le gouvernement humain, mais une fois que Satan aura pris le contrôle, ça ne sera plus lui qui va le retenir. Mais on peut se poser la question, qui est celui... qui est le seul qui peut retenir Satan? Et l'œuvre de Satan et du mal sur la terre, je pense que c'est Dieu. Je pense qu'ultimement, c'est Dieu. Et celui qui retient le mal d'avancer, bien, c'est Dieu. Et comme quand les hommes veulent prendre le péché, puis s'y donner, puis constamment revenir au péché, je pense qu'à un moment donné, c'est même partie d'un jugement de Dieu que de les laisser y aller. Et même Apocalypse, l'idée des démons qui sont envoyés, ultimement, c'est qui les a déliés, les démons? C'est Dieu. Il y a encore le contrôle sur les démons. Et Romains 1, celui qui garde la vérité captive, qui se livre au péché, bien, à un moment donné, Dieu les livre aussi dans leur péché et dans les conséquences que le péché va donner. Oui, M. Dumont. Hein? C'est ça. Hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. Il va leur rester ça, certainement. Ouais, c'est ça. Mais l'œuvre de neutralité, moi, en tout cas, je le traduis comme ça, l'œuvre de neutralité sur le mal, l'esprit, le contrôle, et le seul à pouvoir avoir un contrôle sur ça. Et à un moment donné, ben, celui qui doit disparaître, disparaîtra, et l'impie, mais va prendre la place avec Satan, avec l'autre bête, et puis exercera un contrôle sur la terre. Mais avec ce qu'on s'est laissé la dernière fois, par le souffle de sa bouche, quand Jésus va revenir, il l'écrasera par l'éclat et il l'écrasera aussi par l'éclat de son avènement. Le souffle de sa bouche, l'éclat de son avènement. Jésus qui revient, il va régler la situation sur la terre. C'est sur ça, ce vers quoi on s'en va. Je vous invite à tourner dans Tite 2. Quand Jésus revient, on parle à la fin de la dernière semaine, la dernière portion. Et juste pour le moment du retour du Seigneur, on en a déjà parlé. Je vous ai fait tourner dans Tite 2. Gardez un doigt dans Tite 2, puis j'aimerais qu'on lise Jean aussi, 14. Les trois premiers versets, on l'avait lu, je pense, mais juste se rappeler rapidement notre espérance. Parce que le retour du Seigneur est très fréquemment et très clairement enseigné dans les Écritures. Et Jésus l'a dit à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, le désir de Dieu, le désir de Jésus était de retourner auprès de son Père, préparer une place, et puis d'un jour de revenir nous chercher quand ça allait être prêt, et que là où ce qu'il est, on puisse y être aussi. Et ça, c'est l'espérance des croyants. C'est notre espérance aussi qu'un jour le Sauveur va revenir. Et dans Tite 2, les versets 11 à 14, est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire Tite 2, 11 à 14? OK, Richard. OK, il y a beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce qui a été manifesté? La gloire? La grâce? La grâce a été manifestée, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu a été manifestée. Jésus est venu nous rencontrer. Il nous a donné sa vie. Il veut qu'on soit sauvés par la foi, par la grâce. Mais qu'est-ce qu'on attend? Quelle autre manifestation qu'on attend? La manifestation de la gloire. ce qui est encore à venir, ce qui s'en vient, en attendant la bienheureuse espérance. Ça, c'est notre espérance. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée bienheureuse? Pourquoi est-ce que pour vous, c'est une espérance bienheureuse? Parce qu'on va y avoir peur? Oui, parce que... Oui, elle nous donne le paradis. Elle nous donne le paradis. La bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire. Quand on prend le temps de réfléchir à ça, la manifestation de la gloire de Dieu qu'on va voir, c'est notre espérance, ce retour de Jésus en gloire aussi. Monsieur Dumont, je manquais votre commentaire? Oui. Oui. C'est ça, de voir Jésus face à face. De notre... Quel titre est-ce qu'on donne ici à Jésus? De grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce titre-là. De grand Dieu et sauveur. Qu'est-ce que tu as dit, Serge? Non, c'est ça. Les témoins de Jéhovah ne l'aiment pas. Ils font des pieds et des mains pour le tordre. Oui, c'est ça. Mais un jour, Jésus va revenir. C'est notre espérance. Au moment que Jésus revient, il se passe sur la terre, mais même avant que Jésus revienne, il doit se produire quelque chose avec Israël. Qu'est-ce que c'est? On en a parlé dans les signes qui avant la venue, mais qu'est-ce qui doit se produire avant le retour de Jésus? Que Israël se convertisse, qu'ils se tournent vers celui qu'ils ont percé. Quelqu'un qui veut me lire rapidement, Osée 3, les versets 4 et 5. Pendant que vous tournez, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour Israël de se convertir? Une bonne question, ça, hein? Parce qu'ils ont un voile. 2 Corinthiens 3, je pense, de mémoire. Ils ont un voile, certainement, quand ils lisent l'Ancien Testament. Et la lumière n'est pas là encore, mais à un moment donné, le voile, quand il est enlevé, mais là, ils se convertissent. Les cœurs vont se convertir. Mais ils ont un voile. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour Israël, d'un point de vue national? Hein? Il y a des Juifs qui peuvent se convertir, là. Mais d'un point de vue national, comment ça se fait que les Juifs ne se convertissent pas encore? Pourquoi c'est difficile pour eux de le faire? Mais comment? Ouais. C'est difficile pour eux, celui qu'ils ont percé, celui qui ont crucifié, ils doivent réaliser finalement leur erreur. Ils disent, hey, on a crucifié le Messie, celui qui devait venir, celui qu'on attendait, on l'a crucifié. Et c'est une reconnaissance de leur erreur, là. Oui. Ouais. Alors, mais ce peuple-là qui était avec Dieu initialement sont tombés dans l'incrédulité et là dans l'endurcissement de leur cœur et finalement Dieu a décidé de se tourner vers d'autres qui voudraient accepter ce que Jésus avait à offrir et puis ils sont tombés dans l'endurcissement. Mais certainement, c'est ça. Oui, Gaétan, puis après ça, Céline. Oui. C'est ça. Israël est tombé dans l'endurcissement. Dieu, et là, j'ai une foule de questions qu'on pourrait se poser, mais je pense qu'on s'en sortira pas à soir. Mais Israël est tombé dans l'endurcissement. Ils ont besoin de se convertir. Ils ont besoin de ramener leur cœur à Dieu et de reconnaître Jésus. Il y avait Céline après ça, René. Ça sera pas long, René. OK. Il y a trop de païens qui sont attachés à Jésus. Ouais. OK. Oui, René. Ouais. C'est ça. Ben oui, c'est ça. C'était leur messie. Oui. C'est ça. Alors, il peut y avoir plusieurs empêchements, mais c'est ça, il y a un poids qui repose sur leurs épaules. Ils ont une confession à dire à Dieu. On a crucifié le Messie, celui que tu nous as envoyé. Et une fois qu'ils vont confesser, qu'est-ce que Dieu va leur faire? Il va faire tomber le feu sur eux? Vous l'avez dit plus tôt au jour. Mais non, il va revenir les délivrer. Il va revenir prendre son peuple. Dieu n'a pas terminé son plan. C'est le caractère de Dieu qu'on découvre à travers son œuvre, d'un peuple qui a été rebelle, qui a été difficile, qui a abandonné Dieu à plusieurs reprises et qui même présentement est dans l'endurcissement jusqu'au jour où ils vont lever les yeux vers le ciel puis ils vont crier à Jésus qui vienne les sauver. Et il va revenir les sauver. Ça, c'est le caractère de Dieu qui a un amour fidèle, qui jamais qui abandonnera comme ça son peuple, et il nous l'a dit, il nous l'a confié. Et ça, c'est la même assurance que, en tant qu'enfant de Dieu, quand que je luttais dans mes pensées, à savoir, à un moment donné, on pense des fois sur la perte du salut, puis on se dit, quels sont les arguments dans les Écritures qui me disent que je peux pas perdre mon salut? Mais il y en a plusieurs, là, il y a plusieurs textes, là. Pas nécessairement lancer la question. Mais pour moi, un des arguments qui a pesé lourd dans la balance quand je regardais le caractère de Dieu avec son peuple, il les a jamais abandonnés. Et pourtant, combien de fois ils se sont tournés vers d'autres dieux, ont levé le poing contre l'Éternel, puis ont dit on ne veut plus rien savoir. Puis Dieu les a ramenés, même Manassé, hein, j'avais prêché là-dessus il y a plusieurs mois, Manassé qui faisait exprès d'hériter l'Éternel, puis quand il était enchaîné dans un pays, dans le palais d'un autre roi, d'un autre pays, finalement, il a levé les yeux, puis il a crié à Dieu, demandé pardon, puis Dieu l'a délivré. Un roi méchant qui faisait exprès d'hériter l'Éternel, il est venu le sauver de où ce qu'il était. Ça, c'est le caractère de Dieu, d'un amour fidèle, d'un amour qui, certainement, quand Israël va crier à lui, il va revenir, et là, il va se passer une bataille sur la terre. Une bataille où Jésus va revenir avec les saints pour lutter sur les nations qui seront venues pour faire la guerre à Israël. Quelqu'un qui avait tourné dans Osée 3, 4 et 5, un volontaire? Vas-y, Danny. Il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire d'Israël où est-ce qu'ils ont abandonné, ils se sont laissés à eux-mêmes, et puis à un moment donné, ils reviennent à l'Éternel. Leur cœur va revenir. Certainement qu'ils sont revenus déjà en partie en Israël, il y a déjà une nation de reconnus, mais leur cœur doit revenir aussi à l'Éternel. Alors, Israël acclame et réclame Jésus-Christ comme son sauveur. La repentance d'Israël, accepter le Christ jusque-là détesté, reconnaître la longue erreur de tout leur peuple, comprendre leurs crimes à l'égard de Dieu, réaliser toutes les bénédictions perdues. Et c'est un coup douloureux à réaliser, mais ils devront le faire. Dieu donne aux Juifs un cœur nouveau. Israël sera dans le bonheur quand ils auront confessé ce qu'ils ont fait et que Jésus va revenir. Ils éclateront en chant de triomphe. Et là, je passe plusieurs textes que j'aurais pu vous donner. Mais ils éclateront en chant de triomphe, jouira de la liberté, vivra dans la paix, dans la sécurité, puis sera consolé. Sera défendu aussi par ces nations-là qui sont venues l'attaquer. La seconde venue de Jésus va changer la face du monde à partir de ce temps-là. Et déjà, sa première a changé. Et ce sera l'accomplissement, certainement, une grande partie de l'accomplissement de ce qui s'en vient. Et la seconde venue de Jésus, j'aimerais vous tourner dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Jésus va revenir. Je vais juste vous donner quelques éléments, des caractéristiques de son retour. Si vous les prenez en note, si vous êtes intéressé par plusieurs textes, je peux vous les laisser. Mais si on prend le temps de les lire, ça peut devenir très lourd. Mais si vous êtes intéressé d'avoir plus de textes, venez me voir puis je vous les donnerai. Mais certainement que quand Jésus va revenir dans sa deuxième venue, dans sa seconde venue, il va revenir en grâce, il va revenir pour les siens, comme le Fils de Dieu, il va revenir dans la nuée pour introduire aussi dans la maison de son Père ses enfants, et puis comme l'étoile brillante du matin, qu'on dit, mais aussi en jugement. Vous souvenez-vous, à un moment donné, Jésus a ouvert Ésaïe, puis il a lu un texte, puis il a coupé le texte en deux. Et là, de mémoire, je pense que c'est Ésaïe 50, à la fin de 50, là. Et là, il a coupé le texte juste avant ce qui annonce sa deuxième venue, pour un jour de vengeance. Il a coupé le verset en deux, là. Il a coupé le verset direct, là. Et pour la suite du verset dit, pour un jour de vengeance, et puis pour les siens, et ce que je viens d'énumérer, là aussi, je sais pas, j'en fais chercher quelques-uns, là, mais je peux ramener le texte. As-tu trouvé, René? 61? OK, mais tu veux-tu le lire? Poup, là, il a fermé le rouleau. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et ça voulait pas dire que le reste était pas bon, mais le reste est à venir. Et c'est ce qu'on voit. Mais il y aura un jour de vengeance, certainement. Tu voulais la référence? C'est 61, 1 à 4 à peu près qu'on vient de lire, là. Oui. La référence parallèle, là, je ne saurais pas quelle. Probablement dans Matthieu, ça doit être là mais je ne sais pas quelle référence. Bref, ça sera aussi en jugement et en gloire avec les siens. J'aimerais qu'on lise tout de suite 2 Thessaloniciens 1, les versets 7 à 9. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire ces trois versets-là? Serge. OK. Alors, quand Jésus apparaîtra du ciel, certainement, ça sera un jour aussi de vengeance, un jour de justice sur la terre, avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Souvenez-vous, quand on vient de lire ça, il me semble qu'on se dit, Jésus revient, puis il établit la justice, puis il me semble que ça semble dur. Mais souvenez-vous tout ce qu'on vient de dire, de ce mal qui grandit et grandit et grandit, l'homme impie qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu, les démons qui sont sur la terre, on peut, je ne sais pas si on est capable d'imaginer le mal et le péché qui sera sur la terre à ce moment-là. Quand Jésus va revenir, ça va être un soulagement. Un soulagement de la justice enfin établie sur la terre et de justice aussi donnée sur les saints qui auront souffert, qui auront été persécutés, qui seront morts à cause de leur foi. Alors, ce moment-là va être grandement attendu et espéré. Et même si on croit qu'on sera enlevé à ce temps-là, on croit aussi qu'on redescendra aussi pendant son retour et qu'on participera aussi avec lui. On verra tantôt, peut-être une autre fois, un texte qui nous parle qu'on va être avec lui aussi. Alors, Jésus revient en jugement, en gloire avec les siens, comme fils de l'homme sur des nuées, pour établir son royaume sur la terre, comme le soleil de la justice. Il y a plein de textes encore qu'on aurait pu lire, mais Jésus va revenir. Et ça, c'est la certitude que l'on a d'un moment donné qu'il va revenir. Et déjà, si on pense à notre temps, même si on n'est pas dans cette période d'abondance de péché, si on imagine que Jésus revient ce soir, ça crée un grand soulagement pour de voir qu'enfin, le péché, la victoire ou l'accomplissement du salut, du moins dans nos vies, au moment qu'on sera ressuscité, on aura la libération face au mal que l'on aura. Il y aura un soulagement, il y aurait un soulagement si Jésus revenait ce soir. Mais placé dans un temps où ce que le péché sera encore plus grand, certainement que ça va créer un grand soulagement et sur ceux qui croient en lui et même sur l'ambiance mondiale, sur ce qui s'en vient. il y a un royaume qui s'en vient, un royaume terrestre. On croit, quand on lit Apocalypse 20, que quand que Dieu dit 1000 ans, qu'il veut nous dire 1000 ans. Pierre, il va dire 1000 ans est comme un jour. Moïse a dit la même chose. Pierre, il cite Moïse. De mémoire, c'est Moïse. Mais 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Alors, certainement que Dieu est au-dessus du temps. Mais quand on lit Apocalypse 20, on croit qu'il y aura un royaume terrestre de 1000 ans sur la terre. Et là, je vais juste résumer trois positions qui existent. Et je veux particulièrement insister sur le prémillénarisme. Il y a l'amillénarisme et le post-millénarisme. Est-ce que vous connaissez un peu ce que c'est le prémillénarisme? Si on commence avec ça, qu'est-ce que c'est? Juste des grandes lignes, on dit ça, après ça, on ferme la boucle pour ce soir, parce que le temps est déjà avancé. Jésus revient avant le millénium. Les tribulations, mais l'Église se renleva avant les tribulations, il revient après les tribulations. Mais je comprends ce que tu voulais dire. Il revient avant le millénium. Amille. Oui, Hugues. Amille, il n'y a pas de période de 1000 ans. Comment? On est dedans. Alors, on est dedans. Et puis, post-mille, c'est quoi? Après quoi? Qu'est-ce qui est après quoi? Ouais. Tu sembles un brin sarcastique sur cette position-là. C'est vrai, effectivement. C'est ça. Et quand on regarde notre monde, et évidemment, cette position-là est de moins en moins en vogue. Ouais. Et c'est dans ces périodes-là que cette position-là est sortie. Le post-millénariste est sorti justement assez dernièrement, là, justement dans cette période-là où ce que les choses semblaient aller mieux et puis on semblait avoir un renouveau. Et puis là, que justement l'Évangile devait conduire vers quelque chose de plus en plus beau jusqu'au retour du Seigneur. Et je pense pas que c'est ça qu'on peut constater maintenant. La position la plus ancienne est le prémillénarisme, et qui était enseigné, cru, qui était la conviction de plusieurs pères de l'Église, et très, très tôt, 1er, 2e siècle, c'était les positions enseignées, c'était les positions que les gens croyaient à ce temps-là. L'amillénarisme est né plus tard aussi, avec différents mouvements d'interprétation aussi des prophéties. Qu'on parle de l'école d'Alexandrie, qui est un petit peu plus allégorique dans sa façon d'interpréter les choses, et qui justement a découlé du fait de le 1000 ans n'est pas nécessairement un 1000 ans jour pour jour, mais un 1000 ans spirituel un peu, là. Je viens de donner les grandes lignes. Il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait rajouter encore pour l'instant. On va prendre le temps la prochaine fois de regarder plus ce 1000 ans de règne que Jésus va avoir sur la terre. C'est un 1000 ans qui sera certainement agréable pour nous, comme pour les gens de la terre. Et les gens, des fois, on se pose la question, si on coupe tout au couteau, mais certainement qu'il y aura une période de tribulation, il y aura le retour du Seigneur, après ça, il y aura le millénium, mais il peut y avoir quelqu'un qui naît, par exemple, je sais pas, moi, il y a 15 ans quand une tribulation commence, et puis il passe 7 ans, puis après ça, il passe les tribulations, puis après ça, il entre dans le millénium. Alors, il y a des gens qui vont évidemment traverser tout ça, là. La fin du monde s'en vient, il va être au grand trône blanc, mais les gens vont continuer de vivre, ils vont passer ces périodes-là, ils vont voir les événements se dérouler aussi. OK, j'arrête là pour l'instant. Question, commentaire en terminant, rapidement? Oui, Jean-Pierre? Péché dans le cœur, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, absolument. On n'a pas besoin de Satan pour faire du péché, on est capable du seul. Ouais, on a le péché malheureusement attaché encore au cœur, et puis on a Dieu dans nos vies, mais il y aura des gens dans le millénium qui ne connaîtront pas personnellement Jésus-Christ et qui vont continuer de pécher. Puis c'est ça. Mais on va revenir justement sur ça, parce qu'à la fin des 1000 ans, la nature de l'homme va se révéler clairement aussi, là. OK, je vais terminer en priant. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. On a cette bienheureuse espérance de ton retour, de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, on est fiers que de t'appartenir, que d'être tes enfants. Continue de nous transformer. Continue de nous appeler à toi en levant nos têtes, nos yeux, Seigneur, pour garder la foi, garder l'espérance, la persévérance aussi, à travers ce que l'on a à vivre et que tu nous utilises, Seigneur. Comme on disait tantôt, on est le sel, on est la lumière. Tu nous as fait des ambassadeurs. Tu veux qu'on parle, tu veux qu'on ait une influence sur notre monde, Seigneur. On veut s'engager à ça. On veut vivre pour toi et faire une différence là où tu nous as placés. Dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen.